Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime avec aux manettes Francky. Nous allons aujourd'hui, je reçois plusieurs invités. Nous allons aller du côté de la mer avec une superbe exposition au musée de la Marine. C'est l'exposition des photos de Jean Gomy et c'est jusqu'au 17 août au musée de la mer, musée de la Marine au Trocadéro. Et ensuite, j'irai direction Versailles avec un incroyable festival de théâtre. C'est le Mois Molière. Et là, je recevrai un des metteurs en scène résidents, Ronan Rivière. À tout de suite. Avant cela, nous écoutons Dalida, La mer.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Voilà, nous venons d'entendre Dalida, la mère, fameuse chanson. Et je reçois donc Marion Vessière. Bonsoir.
Bonsoir Agnès.
Vous êtes la directrice adjointe du musée de la marine de Paris situé au Trocadéro et nous allons parler de cette exceptionnelle exposition sur la carrière du fameux photoreporter Jean Gomy. Alors je le rappelle, hein, Jean Gomy, âgé de 76 ans, hein, photographe maritime, qui a une fascination pour le monde marin. Il a été membre de l'agence de photos Magnum, et cela depuis 1977. Hein. Il a été nommé peintre officiel de la marine en 2008. Et donc, le musée national de la marine lui consacre cette magnifique expo. C'est jusqu'au 17 août. Voilà, donc Marion Vessière, vous allez nous faire rentrer dans cet univers incroyable. 150 photos qui nous font vivre la pleine mer, l'exploration des pôles, la pêche en conditions extrêmes, mais aussi les traumatismes des marées noires. Alors, ce que j'ai aimé, moi, dans cette exposition, c'est qu'on partage totalement le froid, la fatigue, la colère des marins. Alors Jean Gomy, pour vous, plutôt reporter, conteur d'histoire.
Et Jean Gomy, c'est un peu tout ça. c'est un grand reporter qui a parcouru le monde depuis les années 1970 à l'agence Magnum, comme vous l'avez souligné. Avec des reportages qui lui ont été commandés, mais aussi beaucoup de reportages qu'il a choisi lui-même de réaliser avec des grands temps d'immersion. C'est un photographe qui prend le temps de rentrer dans les sujets, d'être en proximité et de nouer beaucoup de liens avec les personnes qu'il photographie. Il s'intéresse beaucoup aussi au monde clos. Et donc, voilà, il sert cette proximité. Il a une expression pour ça qu'il traduit par « seul tous ensemble », c'est-à-dire à la fois trouver la bonne distance avec son sujet pour ne pas le gêner dans son quotidien, dans son travail, dans ses émotions, et en même temps être en capacité d'être proche de cette personne qu'il photographie pour justement comprendre ce qu'il vit.
Oui.
Donc, effectivement, ces photographies retranscrivent beaucoup les émotions des personnes auxquelles il s'intéresse.
Oui. On a aussi l'impression qu'il veut préserver de l'oubli, finalement, de l'oubli, ce qui est en train de disparaître. Je pense aux pêches ancestrales, aux chalutiers ouverts.
Oui, c'est un fil rouge qui a parcouru tout son travail depuis le début. C'est cette peur de voir disparaître des mondes, des atmosphères et cette volonté de fixer le réel par la photographie ou quand la photographie présente des limites passées à la réalisation. Il a réalisé plusieurs documentaires, on en présente d'ailleurs des extraits aussi dans l'exposition. Voilà, cette peur de ce qui va disparaître et c'est quelque chose voilà qu'il a animé à la fois par exemple quand il a photographié les fameux poissons d'une conserverie de poissons à Fécamp qu'il a photographié à plusieurs reprises dans les années 70. C'est aussi la peur de voir disparaître certains types de pêche traditionnelles. Il a fait un magnifique reportage qu'on présente dans l'exposition sur des pêcheurs à Long Island aux États-Unis. Il a photographié pendant plusieurs jours dans les années 80 avec là aussi une pêche traditionnelle qui était menacée de disparition. Et puis, ça a été aussi tout son travail qu'il a réalisé à bord des chalutiers dits classiques, qui était aussi une forme de pêche très dure pour les pêcheurs et en symbiose totale avec les éléments. Et donc là aussi, la peur de voir disparaître ce type de chalutier. Et c'est quelque chose qu'il a animé très rapidement. En fait, il a toujours regretté de ne pas avoir eu le temps de photographier les derniers Terneva comme Anita Conti avait pu le faire.
Oui, il y a eu également ces expéditions scientifiques à bord de brise-glace de la garde côtière canadienne qui sont alors photos assez présentes hein, également dans cette exposition.
Oui, on a choisi vraiment avec Mathieu Rivalin, qui est l'autre commissaire de cette exposition, qui est le chef de la photographie à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, de choisir différentes thématiques maritimes qui illustrent le travail de Jean Gomis. Et donc, effectivement, on parle de la pêche, mais on parle aussi des sous-marins, on parle aussi des marées noires, des plateformes pétrolières, des éoliennes en mer et des pôles,
avec
des registres. Cette partie-là sur les pôles était vraiment l'envie de montrer différentes facettes du travail de Jean Gomis, à la fois des photographies extrêmement documentaires, où il suit différentes expéditions scientifiques entre 2008 et 2018, où à travers sa photographie, il rend compte du travail de ses équipes sur le terrain. Et puis aussi une photographie où il explore d'autres registres, et notamment une photographie beaucoup plus contemplative, voire presque abstraite. Et certains moments, c'est un peu déconcertant, parce qu'en regardant son travail, on se demande si on est face à une photographie ou on est sur une autre forme de représentation, presque picturale parfois.
Oui. Alors dans cette exposition des œuvres peut-être plus confidentielles, non ? Est-ce qu'il y a des photos présentées pour la première fois ?
Oui, alors, il y a des photos qui sont bien connues de Jean Gomis, notamment son reportage à bord des salutiers classiques qu'il a publié dans un ouvrage en 2001 qui s'appelle Pleine mer et qui est un peu le chef-d'œuvre par lequel Jean Gomis est connu du grand public. Et puis, il y a aussi beaucoup de photographies qu'on s'est attaché avec Mathieu Rivalin et Jean Gomis à ressortir et voir certaines qui n'avaient jamais été montrées. Donc, c'est l'occasion vraiment de découvrir le travail de ce grand photographe.
Oui, et l'œuvre se termine par des clichés de glaciers un peu, alors plus graphiques, d'ailleurs, sans où l'espèce humaine est absente. Hein. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a eu peut-être depuis cinq ans une conception plus abstraite chez Jean Gomis?
Oui, il y a eu un tournant qu'il a pris dans les années 2010. Il avait photographié pendant de longues années les sous-marins, les huis clos des sous-marins grâce à la Marine nationale où Jean Gomis a pu être embarqué et être un des premiers photographes embarqués à bord de sous-marins nucléaires d'attaque ou de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans des missions secret défense. Et donc dans l'exposition, on présente une petite section sur le travail qu'il a pu réaliser à bord des sous-marins, que ce soit son film documentaire sous-marin ou ses photographies. Et après ces reportages, voilà, un peu confinés au fond des mers, dans des lieux voilà très très réduits avec des équipages nombreux, il a eu envie de se ressourcer, de se retrouver, et donc il a commencé un travail sur le paysage en Italie, dans les montagnes du Piémont. Et puis progressivement, ce travail mené sur le paysage l'a conduit aussi à explorer les paysages de falaises à Fécamp, où il habite depuis 1995. Et puis, ça l'a conduit, au moment de son travail sur les pôles, à partir de 2008-2010, à aussi commencer une nouvelle forme de photographie, où effectivement, il photographie des paysages sans présence humaine et à la recherche de paysages bruts, immémoriaux, et avec une recherche à la fois sur les aisselles. Parfois, il nous perd dans l'immensité des paysages des glaciers, mais aussi il conduit notre regard sur beaucoup de détails. Il s'intéresse beaucoup au contraste des matières et des couleurs. Et donc, on présente dans l'exposition à la fois une partie de ces photographies qui sont extrêmement contemplatives, avec des œufs sur les nuages, par exemple, ou sur le brouillard. Et puis aussi une partie de deux séries de photographies, une en couleur et une en noir et blanc, où on est sur des photographies beaucoup plus abstraites et où on ne sait plus trop ce que Jean Gomis représente. Parfois, c'est voilà, c'est plus du tout explicite, mais voilà, il joue beaucoup sur les contrastes de lumière, de couleurs, de matière.
Oui, formidable hein, exposition au musée de la Marine à Paris sur le photoreporteur passionné du monde marin Jean Gomy. Marion Vessière, on écoute Renaud quand le vent soufflera et je vous reprends tout de suite.
Hein. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Ridel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous venons d'entendre « Quand le vent soufflera » de Renaud et je suis toujours en compagnie de Marion Vessière, la directrice adjointe du musée de la Marine à Paris. Vous êtes toujours là ?
Et je suis toujours là.
Formidable. Donc, nous parlions de cette fabuleuse exposition en ce moment au Trocadéro sur Jean Gomi et la mer. Vous nous avez raconté sa vie, son parcours, ses moments, les moments phares de son œuvre. Voilà, sa passion pour la pleine mer, pour l'univers. À travers ces photos, on voit bien évidemment également la dureté du monde marin, les traumatismes des catastrophes, notamment les Rica. Mais est-ce qu'il porte aussi un regard sur peu d'images finalement, non, sur les dérèglements climatiques, fonte des glaciers. Qu'en pensez-vous?
Il a quand même une attention qui parcourt toute son œuvre. Alors il n'utilisera pas forcément le terme écologique, mais c'est quand même quelque chose, voilà, qu'il habite profondément. Il a beaucoup photographié, par exemple, les communautés de pêche et s'est intéressé à la comparaison entre des pêches plus traditionnelles, moins invasives pour la préservation des ressources et des pêches beaucoup plus extensives. Comme les pêches industrielles, on présente quelques photographies assez extraordinaires et effrayantes de pêche traditionnelle à bord d'un navire russe où on voit l'énormité des filets.
C'est incroyable, ah oui, magnifique.
On en parle aussi dans l'exposition sur la partie sur les marées noires. On a notamment cité une citation de Jean où il dit que l'humanité a besoin de temps pour se rendre compte des choses et de son empreinte sur la nature. Et évidemment, ça a aussi parcouru tout le travail qu'il a pu faire autour des paysages, que ce soit dans les pôles, mais aussi en suivant ses équipes scientifiques qui travaillaient notamment sur les effets du réchauffement climatique sur les pôles ou sur... les organismes qui vivent dans ces parties du monde. Évidemment, sa curiosité et son éveil sur la préservation de la planète est prégnante et il nous la transmet à travers ses photographies. Ces photographies nous invitent aussi à réfléchir sur tous ces sujets.
Oui, mais ce qui est formidable dans l'œuvre de Jean Gomi, c'est que on retient quand même le côté très humain finalement, et on voit ces pêcheurs, on voit la dureté de ce qu'ils peuvent endurer. Et vous en parliez tout à l'heure, les photos de la pêche au thon sont incroyables devant l'immensité, voilà, de ces espèces.
Oui, et là aussi, il est revenu plusieurs fois pour photographier cette pêche au thon dans le sud de l'Espagne pour montrer aussi qu'il y avait des formes de pêche qui étaient ancestrales, puisque ce type de pêche a été implanté en Espagne sous les Phéniciens, donc ça y est, très très longtemps. C'est une pêche qui perdure, qui fait partie des quotas de pêche d'ailleurs que l'Espagne par exemple attribue à ses différents pêcheurs. Il montre aussi qu'il existe des formes de pêche qui préservent davantage les ressources.
Oui. Un mot peut-être sur Anita Conti, très présente également dans cette exposition. Incroyable femme qui a marqué son temps, réalisatrice de documentaires. Un mot?
Oui, alors en fait, dans l'exposition, on présente deux expositions.
Oui.
Donc il y a la grande rétrospective des fusées maritimes que Jean Gomi a pu travailler pendant toute sa carrière. Et avant, on présente une petite exposition concentrée cette fois-ci sur les collections du Musée National de la Marine et notamment les collections de photographies relatives à la pêche. Et dans cette exposition, on présente différents photographes dont les œuvres figurent dans les collections du musée, dont celle d'Anita Conti, qui a eu une collaboration très longue et très nourrie avec notamment l'Association des Amis du Musée National de la Marine. Et elle a publié notamment de nombreux articles dans la revue de cette association qui s'appelle Neptunia. Et donc, on a la chance au Musée National de la Marine de conserver plusieurs de ces photographies, que ce soit des négatifs ou des tirages, qui permettent d'appréhender un certain nombre de pêches. Et là aussi, beaucoup d'intérêt d'Anita Conti, qui est effectivement une grande océanographe, une grande scientifique, sur la pêche à travers le monde. Et on a, par exemple, présenté dans l'exposition des reportages qu'Anita Conti a pu faire en Afrique, en Mauritanie, au Sénégal, de pêche traditionnelle.
Oui, dans les années, on est dans les années...
Dans les années à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, Anita Conti a été diligentée pour pouvoir cartographier les zones de pêche en Afrique occidentale française. Et à cette occasion, elle a aussi essayé d'installer des pêcheries pour pouvoir développer des espèces qui étaient... peu utilisé dans l'alimentation des populations locales, notamment pour lutter contre la malnutrition de ces populations. Et par exemple, elle s'est beaucoup intéressée aux requins, qui ont un taux de vitamine A assez important, et elle en a tiré un livre en 1957.
Oui, formidable.
Donc on présente un peu, voilà, aussi l'œuvre d'Anita Conti à travers cette première exposition.
Oui, d'ailleurs, le 5 juillet, samedi 5 juillet à 17h, il y a la projection de son film La Dame de la Mer, hein, d'Anita Conti.
Exact, on propose autour de l'exposition une très riche programmation.
Oui,
et donc
tout
le 5 juillet, il y aura une conférence autour d'Anita Conti avec différentes institutions culturelles, la Cinémathèque de Bretagne et la Ville de Lorient par exemple, qui conservent le fonds patrimonial d'Anita Conti. Et donc elles viendront avec le Musée National de la Marine présenter ce que Anita Conti a produit comme film, comme rush, comme photographie pour qu'on connaisse mieux cette grande dame de la mer.
Le 5 juillet, hein, donc au Musée de la Marine. De toute façon, nos auditeurs peuvent consulter toute la programmation autour de cette exposition sur le site Musée National de la Marine. Demain, samedi 14 juin à 18h, il y a également des conférences. La nuit sous-marin, voilà, projection de 5 épisodes du documentaire fameux documentaire sous-marin de Jean Gomi. Jeudi 19 juin, 14h, également des rencontres, des échanges sur la recherche sur la pêche. Et bien sûr, tout le ciné-club, le cycle incroyable, ciné-club de Jean Gomi. Tarif réduit 3 euros, tarif 5 euros. Demain, dimanche 15 juin, enfin pardon, après-demain, dimanche 15 juin, 17h, le dernier rivage de Stanley Kramer. Merci beaucoup Marion Vessière. Merci beaucoup de cette interview. Un dernier mot, les collections de cette exposition proviennent de quelle institution
pour les
photos Jean Gomi?
Pour les photos de Jean Gomi, ça provient de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui est un service du ministère de la Culture, où Jean Gomi a souhaité donner tout son fonds photographique et ses archives. Et donc le versement est en cours en ce moment à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et puis pour la première exposition sur la pêche au-delà du cliché inédit de la collection, ce sont cette fois-ci les collections du Musée national de la Marine qui sont présentés.
Je vais juste
rajouter une dernière petite chose. Merci beaucoup d'avoir présenté toute la programmation organisée autour du musée. Jean Gomi sera au musée samedi, si vous avez envie
demain,
de le rencontrer, autour des sous-marins. Et donc, si vous avez envie de dialoguer avec lui sur la photographie de sous-marins qu'il a pu réaliser, il sera présent avec 3 officiers de la Marine nationale qui seront là avec Jean Gomi pour décrypter ses photographies.
Donc demain à 18h.
Exactement.
L'entrée est libre ou il faut prendre quand même l'entrée du musée?
Il vaut mieux réserver et c'est les tarifs que vous avez indiqués, 5 euros en tarif plein et 3 euros en tarif réduit.
Très bien. Merci beaucoup. Donc Jean Gomi et la mer, c'est jusqu'au 17 août au Musée de la Marine à Paris. Merci. Nous écoutons Nicole Croisil et ensuite je reçois mon deuxième invité. À tout de suite.
T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours. tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour. Tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier au fond. Tu n'as qu'un seul regret. Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste.
IDFM Radio, 98 FM.
Ronan Rivière, bonsoir.
Bonsoir.
On est très contente de vous avoir sur nos antennes, sur IDFM Radio.
Bien, merci de me recevoir.
Nous allons nous diriger à Versailles. Nous allons parler du Mois Molière qui se tient jusqu'au 29 juin. Alors là, c'est incroyable. La ville est complètement transformée, j'allais dire, à ciel ouvert, en un immense théâtre, dans des lieux bien sûr féeriques. Alors, hôtel de ville, église, théâtre, les places, les cours, les jardins, la grande écurie de Versailles quand même, le potager du roi, l'hôtel des affaires étrangères. Donc jusqu'au 29 juin, il y a une cinquantaine, voire centaine de spectacles dans 62 lieux. C'est la 29e édition à Versailles. Il y a des pièces classiques, du contemporain, des comédies, de la Commedia dell'arte. Bon voilà, on pourrait la liste est longue. Et donc vous, Ronan Rivière, vous êtes un habitué puisque vous êtes un metteur en scène résident, très influent par ailleurs dans le monde du théâtre, comédien de surcroît. Et en fait, depuis 2016, votre compagnie est en résidence à Versailles. Tous les ans, vous créez un spectacle pour ce mois Molière. Cette année, vous avez proposé donc une création, mais qui est déjà, hélas, jouée, qui s'est jouée il y a quelques jours. Et en même temps, vous produisez deux spectacles. Alors, vous avez donc un œil extrêmement aiguisé sur ce festival, Ronan Rivière. Quelle est la particularité cette année?
Cette année, le mois Molière, vous l'avez dit, existe depuis 29 ans, donc il s'étend et il va dans des lieux de plus en plus variés et il essaye de toucher un public de plus en plus nombreux et de plus en plus excentré, puisque Versailles est quand même une grande ville avec des quartiers très différents. Donc l'idée, c'est de faire du théâtre populaire et de toucher le maximum de public, d'aller à la rencontre des gens sur leur territoire. C'est pour ça que, donc vous l'avez dit, il y a 62 lieux, ce qui est énorme. Il y a des propositions de rue, notamment avec la compagnie de Carlo Bozzo. Il y a un travail à l'année sur le territoire, donc avec les compagnies en résidence dont ma compagnie fait partie, c'est-à-dire qu'on travaille avec les établissements scolaires ou les structures culturelles, les maisons de quartier, les bibliothèques, de façon à ce que le théâtre soit pas un événement juste qui se passe au théâtre Montpensier, même si évidemment il y a c'est le théâtre historique de la ville de Versailles, très beau théâtre avec une programmation très forte, mais qu'il aille vraiment à la rencontre des Versaillais et Versaillaises.
Oui.
Cette année, effectivement, il y a une particularité, alors qui date déjà de l'année dernière, c'est que le festival propose une partie de sa programmation aussi à Avignon. L'année dernière à l'ancien Carmel d'Avignon. Et cette année, en plus, au Petit Louvre, qui est un très grand lieu du Festival of d'Avignon, qui est une chapelle notamment du XIIe siècle, et donc que la ville propose de faire la programmation de ces deux lieux-là.
Voilà. Oui, c'est ça. Donc pour les compagnies, c'est un peu finalement un tour de chauffe, c'est-à-dire qu'ils passent à Versailles. Et ensuite, il s'exporte à Avignon. Alors, 10 compagnies quand même en résidence, hein, dans différents lieux. Qu'est-ce que ça représente, le Festival de Versailles, pour une compagnie?
Pour nous, c'est une assise et un soutien très fort, puisque ça nous permet donc d'être ancré sur un territoire et de pas juste faire des créations dans notre coin, mais de créer avec les publics, de rencontrer les gens à l'année. Ça nous permet d'avoir très simplement des locaux, la garantie d'une programmation sur des premières dans des lieux magiques, puisque effectivement, moi j'ai la chance de créer mes spectacles aux grandes écuries. Donc c'est-à-dire en extérieur, puisque c'est dans une cour, devant un gradin de plus de 600 personnes, avec une très bonne acoustique et dans un lieu magique. Donc ça crée vraiment des représentations qui sont très encourageantes, puisque le public est bienveillant, puisque le lieu est très porteur, et en plus ça nous oblige à aller à l'essentiel, puisque effectivement devant 600 personnes en extérieur, on est obligé d'assumer et d'être très précis et très rigoureux de notre jeu et dans nos propositions. Donc pour créer des premières, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ensuite, effectivement, donc cette ouverture vers Avignon nous permet d'avoir une diffusion encore plus forte, puisque l'idée d'Avignon est quand même aussi celle-là, c'est d'essayer de décentraliser le théâtre. Normalement, à l'origine d'Avignon, c'était ça, et d'essayer donc de rencontrer des programmateurs de toute la France dans des villes plutôt moyennes ou modestes pour des propositions pour le off qui peuvent être montées et démontées en une journée.
Oui, oui. On parlait de théâtre populaire. C'est vrai que les tarifs sont tout à fait abordables, vu que pour la plupart, l'entrée est libre. Pour certains, il y a une participation de 2 euros. Et pour d'autres, plus peut-être les concerts, c'est plutôt de 6 à 20 euros. Les grands, enfin voilà, les metteurs en scène de la place théâtrale sont là. Hein, je pense à Carlo, Bozo, Anthony Magnier, Chloé Froget. Bon, on va pas tous les citer. Eric Bouvron, Shirley Dino, Charlotte Mazneff. Bon, Stéphanie Tesson. Voilà, ils sont là. Donc on peut voir vraiment à des prix modiques. Des spectacles formidables, hein. Donc nos auditeurs bien sûr peuvent consulter les programmes, s'inscrire pour ces représentations qui sont bien souvent très complètes. Mais je voudrais également aborder le il y a aussi ce que j'appelle des tous les concerts, tous les spectacles annexes. Je pense demain par exemple, il y a le dans la cathédrale Saint-Louis des chants grégoriens. Voilà, dont l'entrée est libre. Est-ce que vous, Ronan Rivière, vous avez aussi un œil sur tout ce qui se passe?
Ah non, alors c'est François de Mazières qui est le maire de Versailles qui programme la plupart des spectacles de théâtre. Donc notamment, il programme dans la cour des grandes écuries, mais il y a d'autres lieux assez forts du festival, donc qui sont le conservatoire de Versailles, l'hôtel des affaires étrangères. Donc là, c'est lui qui programme. Après, il y a une très grosse programmation musicale, effectivement, mais qui se fait plutôt en lien avec le conservatoire NCMBV, le centre de musique baroque de Versailles. Effectivement, le mois Molière, c'est pas que du théâtre, même si c'est ça qui est mis en avant, mais aussi énormément d'événements musicaux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Revenons peut-être sur les événements phares en théâtre, Ronan.
Oui,
donc ce soir, voilà, vendredi, ce soir.
On a Un cœur simple, donc qui est le texte de Flaubert porté par Isabelle Andréani, qui est donc la compagne de Xavier Lemaire, qui la met en scène, qui est un spectacle qui a déjà eu un gros parcours à Avignon et à Paris, et qui est un petit bijou, un seul en scène superbe, mais le texte de Flaubert l'est aussi d'ailleurs. Et demain, on a deux propositions, donc à la Grande Écurie, il y a Cléopâtre, qui est la grande création de cette année d'Éric Bouvron.
Je crois qu'ils sont 11 sur scène, 8 comédiens, 3 musiciens.
Exactement, c'est ça.
Incroyable, donc dans la grande écurie.
Demain et après-demain, donc ça c'est un très grand spectacle visuel et sonore, comme c'est le faire Éric Bouvron, des très grandes fresques. Et en proposition un peu plus modeste, on a Monsieur Jean ou l'homme poubelle au conservatoire, qui est coproduit par ma compagnie, qui sont des textes de Matej Wiśniewski, qui présente un Candide moderne dans un monde qui devient fou, avec Asantes, qui est un clown et comédien, qui est vraiment un spectacle très fort, remarquable. C'est pour ça que ma compagnie a décidé de le coproduire, puisque c'est très percutant.
Oui, je vais y aller d'ailleurs, c'est demain, hein. Demain à quelle heure? 20h30?
Demain à 20h30 au conservatoire.
Et est-ce qu'il reste des places, par exemple, pour cette représentation?
Alors oui, parce que au conservatoire, le placement est libre et l'entrée est libre. Donc plus vous arrivez tôt, plus vous avez de chances d'avoir des places. Donc parfois, il y a des gens qui arrivent trop tard et qui malheureusement ne peuvent pas rentrer parce que la demande est très forte. Mais il n'y a pas de réservation. Contrairement aux grandes écuries où effectivement il y a eu un principe, comme le lieu est très emblématique et que la demande est trop forte, ils ont dû mettre des réservations à 2 € pour permettre aux gens de ne pas faire la queue pendant des heures.
Alors dans la programmation Ronan Rivière, moi j'ai vu quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est mercredi à 20h30, mise en scène par Chloé Froget, un soupçon d'amitié, et ça c'est à la grande écurie. C'est une création également ?
Oui. L'idée du Moi Molière, c'est vraiment d'être le plus large possible. Donc, il y a des très grands classiques. Il y a eu du Beaumarchais. Il y a des modernes. Moi, j'ai créé du Dostoïevski. Et il y a des créations contemporaines. Donc, là, cette création de Chloé Froget, que je n'ai pas vu puisque c'est une création, mais qui promet d'être un très beau spectacle sur la suspicion ou la loyauté. Donc c'est dans la cour de la grande écurie.
Oui. Et ça, c'est le 18 juin. Et si votre meilleur ami était suspecté des pires atrocités et s'il était soupçonné d'être nazi, que feriez-vous ? Voilà, ça c'est le 18, pièce de Chloé Froget avec 5 comédiens. Je vois également la pièce de Shirley, et mise en scène par Shirley et Dino, le cabaret mythique.
Oui, c'est les mauvais élèves qui sont justement aussi en résidence à Versailles, qui sont un groupe de 4 trentenaires joyeux, un peu foutraque, dans une ambiance un peu kitsch, comme puisque c'est effectivement ils sont mis en scène par Shirley et Dino, donc c'est déjanté, très amusant, un peu entre le cirque et le théâtre. Et donc là, ils vont revisiter les grands mythes grecs et latins. Et c'est vraiment une troupe qui est très amusante, qui avait déjà fait donc des spectacles sur à propos des amoureux de Marivaux, les amoureux de Molière. Les grands rôles notamment aussi de Shakespeare, donc ils ont l'habitude de ces espèces de formes de cabaret et de décaler l'ambiance pour nous faire rire et rendre accessible des très grands textes.
Oui, on y chante, on danse, on joue, on mime, voilà, les plus grands tubes de la Grèce antique. Ça sera donc vendredi prochain, hein, le 20 juin à 20h30. Pareil, nos auditeurs peuvent aller sur le site Les Mois Molière, et il faut aller directement, je crois, sur la page du spectacle, hein, et là, il y a un lien.
Oui, donc c'est le site, c'est moimolière.com. Après, vous êtes redirigé effectivement. Donc, pour les spectacles des grandes écuries, si vous voulez réserver vers BAM Ticket, qui est la plateforme de billetterie, ou pour le théâtre Montansier sur la page du théâtre Montansier. Et puis, sinon, vous avez toutes les informations. Donc, pour venir sans réservation.
Très bien.
Au bon lieu, au bon horaire.
Parfait. Merci beaucoup. Merci Ronan Rivière. Donc je rappelle, demain quand même, vous présentez votre production, enfin le spectacle que vous aidez, hein, qui est Monsieur Jean ou l'homme poubelle. C'est demain à 20h45. Et puis tout un programme formidable pour ce mois Molière. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à rajouter, peut-être sur un événement phare?
Non, juste dire que si vous connaissez pas le Mois Molière, c'est l'occasion de le découvrir, la ville sous un autre aspect, la ville de Versailles.
Oui.
De penser à cette ambiance historique et avec des spectacles aussi contemporains. À Versailles.
Oui, alors ça s'appelle le Mois Molière, mais il y a un Molière quand même, hein.
Les fâcheux
lundi à 20h30, formidable, je vais y aller aussi. Mais voilà, c'est le mois, on va dire, ouvert, à ciel ouvert, dans le Versailles historique. Merci beaucoup, à très vite.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Nicole Croisil, un homme, une femme. Eh bien, pour finir cette émission, j'ai coutume de parler de mes coups de cœur. Alors là, mon coup de cœur s'est tourné à Courbevoie pour le festival Les Mots Libre. Alors vous allez me dire, les mots libres, tiens. Eh bien oui, c'est un festival autour des mots, les mots que l'on utilise, la littérature. Et pour cela, donc jusqu'au 28 juin, il y a des rencontres, des tables rondes, des concerts, du théâtre, de la danse, un tas d'événements gratuits également pour la plupart. Alors je pense par exemple à demain à 14h, eh bien vous avez le loto des goûts et des odeurs. Donc c'est un jeu. Voilà, un jeu gratuit à Courbevoie au centre événementiel. Alors, il y a des tas d'activités. Je vais vous en citer quelques-unes. Demain également à 18h, une rencontre avec Luana Belmondo. C'est une spécialiste de la cuisine italienne. Alors, elle va nous parler avec ses mots, eh bien, de mets riches, savoureux, sur la cuisine. C'est à 18h, je pense même qu'il y aura des dégustations, hein. Et c'est donc toujours à Courbevoie, au centre événementiel. Autre événement que je vous recommande vivement, mercredi 18, c'est à 19h30. À Courbevoie, il y aura la remise du prix des libraires en scène. Alors c'est un prix littéraire qui réunit la plupart des libraires des Hauts-de-Seine et qui ont fait une sélection de livres de poche. Et ensuite, bien évidemment, les habitants des villes ont pu voter, lire et voter pour celui qui préfère. Donc ça va vous donner des idées pour vos lectures de vacances. Autre événement, vendredi prochain, eh bien un escape game, toujours à Courbevoie. à la bibliothèque Les Violettes. La grande dictée, le samedi 21 juin à 17h, c'est quand même la dictée de Jean Soulier. Jean Soulier, c'est pas n'importe qui, c'est l'expert du projet Voltaire. Ça sera donc samedi 21 juin, réservez bien vos places sur sortir à courbevoie.fr, les mots libres, la grande dictée, lundi 23 juin, magnifique spectacle sur Gainsbourg, parce que Serge Gainsbourg utilisait des mots, son langage était très élaboré, poétique évidemment, et vif, percutant. Voilà, un spectacle sur Gainsbourg, Serge Gainsbourg, lundi 23 à 21h. Allez, un dernier, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Le dernier, ce sera le 25, une autre dictée géante. Alors là, je vous y attends. Mercredi 25 juin à 13h. C'est pour tous nos jeunes, voilà, toutes les familles. Toujours à Courbevoie, au centre événementiel. Voilà, je vous ai un peu noyé d'informations, mais faites votre tri dans tout ça. Regardez bien sur les sites hein, pour faire vos sélections. On a parlé donc des mots libres à Courbevoie, il y a un site hein, avec tous les programmes. On a parlé du mois Molière à Versailles et d'une fabuleuse expo au musée de la Marine sur la mer. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée sur IDFM Radio et je vous retrouve dans 15 jours pour toute la culture que j'aime. Vendredi prochain, le 20, ce sera Marie-Laure.
We'll be right back.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Rendez-vous à Margency pour le Festival du Soleil les 20, 21 et 22 juin. Trois jours de fête en plein air avec au programme les stars des années 80, Bibi, Sacha ou encore Jean-Claude Nemro du groupe Cassav. Plus de 150 artistes, des concerts, des danses, des animations pour petits et grands et un forum engagé sur le droit des femmes. Billetterie sur wizevent.com et plus d'infos sur le site mairie-margency.fr. Du soleil, du rythme, de la joie pour bien commencer l'été. Un événement à ne pas manquer, le Festival du Soleil à Margency.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et si votre bien-être commençait aujourd'hui ? Chez Tandem Santé, on fabrique depuis 1996 des compléments alimentaires naturels, efficaces et surtout de grande qualité. Commandez en ligne sur tandem-santé.com, recevez votre colis en 24 à 48 heures ou passez le prendre directement à Montlignon, au cœur de la nature, grâce au Click and Collect. En prime, profitez d'une balade au vert et de 10% de réduction avec le code RADIO, R-A-D-I-O, jusqu'au 30 juin. Tandem Santé, des solutions naturelles proches de vous et de vos besoins.